Nous sommes mercredi 25 septembre 2019, il est 21 h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah.
Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Salut.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Dojo Radio. Ah non, lui il répond pas. Très bien.
La connasse.
Ça va bien se passer. Je suis désolé pour le. Alors, je double m'excuser ce matin. On va faire le double excuse. Enfin, ce soir, enfin, tout va bien. D'abord, je suis désolé pour le retard de l'émission. Il n'est pas vraiment 21 h. Alors, si vous êtes en podcast, vous ne devez pas trop le sentir normalement. Si vous nous écoutez en direct, effectivement, c'est un peu problématique. Et je suis désolé pour la précédente émission qui a eu beaucoup de retard, mais j'ai eu une semaine absolument riche en émotions, on va dire. Voilà, donc. On va essayer de démarrer ce Dojo Bar. Au programme de ce soir, on va parler de Daemon X Machina, qui était
Metal.
La grosse... Metal, boobs, mecha, ça va bien se passer. De Astral Chain.
Techno.
Boobs aussi, d'ailleurs. Un peu moins de mecha.
Il
y en a aussi. Et on va commencer tout de suite par la rubrique Les Restes du Monde, qui va être consacrée à l'actualité chiante de ces dernières semaines.
Oh, tout de suite.
Et on va commencer par Mario Kart Tour. Oui.
Oui. Bah, Mario Kart Tour, ce matin. À 8 h. Enfin, à 10 h. À 8 h, et il y a une maintenance de 2 h. Donc, déjà ça.
Non, mais c'est une blague.
Déjà... Non. Déjà,
c'est le lancement le plus réussi de l'histoire, quoi.
Twitter, déjà, ils étaient à un niveau. À un bon niveau d'énervement. Niveau Greta Thunberg, quoi. Et, et en plus, après, ils n'arrivaient pas à se connecter. Et en plus, après, il y a des vieux mascus qui ont looté Peach ou Toadette. Et là, c'était la petite feuille de basilic sur la pizza. C'était incroyable. La cerise sur le gâteau.
Tu sais qui c'est que j'ai eu, moi?
Peachette. Ah oui, mais...
Oui, non, mais...
Oui, mais voilà, toi, t'as pas fait un tweet attendez. Pour te dire « je suis un mec, pourquoi on me donne pitch ?»
Non, voilà. Parce qu'après, j'ai joué.
Oui, parce
et
que
après,
j'ai...
Et après, le problème a commencé.
Et...
Voilà. Moi, il peut pas s'installer hein, sur mon téléphone, donc je peux pas vous dire s'il est bien. Voilà.
Alors... Galaxy ce premier sur l'info, donc...
Bon, mais je suis votre consultant, je suis le chroniqueur réseaux sociaux, si vous voulez.
Non, mais JBC, on est à deux doigts, hein. C'est de la merde. Next.
C'est... Non mais à ce point-là, enfin,
non,
je veux
alors...
dire, les retours que j'ai vus c'était genre,
pourquoi
enfin,
alors,
c'est
déjà,
quand même très chaud mais...
Techniquement
le concept
propre.
C'est quoi?
Alors c'est un jeu de course où tu peux lancer des objets sur les gens.
Oui mais comment ça se présente par rapport à Mario Kart console? Alors c'est Mario Kart, il y a plein
donc,
de...
machin, c'est un gacha game à la con et le jeu c'est bah, tu fais tes petites courses, le gameplay... très limité, on te propose donc accélération est automatique, tu peux éventuellement contrôler le turbo boost au démarrage, il suffit d'appuyer et de maintenir l'écran quand le 2 s'affiche, hein. C'est rien de dingue. Pour tourner à gauche, tu fais glisser ton doigt à gauche, pour tourner à droite, tu le fais glisser à droite. Et voilà, le jeu se déroule tout seul, quand tu tapes un bord, tu ne peux pas tomber dans le vide, tu ne peux pas faire de hors-piste, ça te ramène à peu près sur la piste, tu contrôles vaguement tes dérapages, et les courses sont très courtes, elles se déroulent toutes en deux tours, donc tu as des nouveaux circuits, des reprises de circuits qu'on connaît déjà. Le point positif que j'y vois, c'est que t'as pas... c'est un pop-up qui vient te proposer de lâcher de la thune régulièrement. La thune, tu la lâches pour acheter des joyaux qui te permettent de looter des pilotes, des cartes, des parapentes, enfin du matos à custom. Et voilà, ça s'arrête là.
Mais tu peux pas ni faire de hors-piste,
non.
Ni tomber.
Non.
Mais quel est l'intérêt de la conduite alors?
Mais c'est... voilà.
D'accord.
Voilà, voilà.
Alors, sujet suivant, on voulait faire un petit retour sur Desert Bus et le The Event. Alors Desert Bus,
alors, dans l'ordre.
Dans l'ordre, c'est Desert Bus for Hope d'abord, qui est donc un marathon du jeu Desert Bus, qui est un jeu qui n'est jamais sorti sur Mega CD, qui était fait par Penn & Teller, enfin qui était on va dire sponsorisé par Penn & Teller. Je me permets juste, Yoshirio nous dit, conclusion, Nintendo va mourir, oui,
oui.
Je pense très
oui,
clairement.
Au bout de 130 ans, enfin.
Tout à fait. Donc, Penn and Teller, célèbre duo de magiciens, on va dire, comiques, un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, Goro comique, qui avait fait donc un jeu où tu fais, je crois que c'est Las Vegas-Sacramento en bus, en temps réel.
Et en ligne droite.
Et en ligne droite, mais avec un bus qui part légèrement sur la droite.
Ouais.
C'est... Non, c'est assez génial hein, comme jeu, parce que c'est vraiment... Tu veux du réalisme, c'est Desert Bus. Le réalisme dans le jeu vidéo, c'est Desert Bus. Donc ça n'a aucun intérêt, et le truc c'est que chaque fois que tu arrives à faire un aller ou un retour, ou c'est un aller-retour, je crois que c'est un aller-retour.
Non, ouais, je sais plus.
Je crois que c'est un aller-retour, tu marques un point. je rappelle, hein, un aller-retour Sacramento-Las Vegas, avec un bus qui roule à peu près à, je sais plus, je crois que c'est 50 miles à l'heure, 60 miles à l'heure, une connerie comme ça.
Ouais, 80 km heure, un truc comme ça.
Voilà, c'est 8h, 10h, une connerie comme ça.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Ah, c'est juste un aller.
C'est l'un des pires jeux du monde. Et du coup, tu as cet assos. Alors, ça a essaimé. Hein. À la base, c'était américain, si je dis pas de conneries. Ou anglais, je sais plus. Enfin, bref. Ça a essaimé. Et donc, tu as une assos française qui, une fois par an, s'éclate à faire un marathon sur le jeu en invitant différentes personnalités. Et dans le but, de récolter des sous-sous pour l'assos Les Petits Princes. Le marathon de cette année, il est fin novembre, c'est ça, du 29 au 1er, et voilà, donc une initiative bien cool, sur laquelle je pense que ça valait le coup de mettre un petit coup de spot, un petit coup de lumière.
Et donc le Z-Event, puisqu'apparemment il y a eu de la polémique, et alors, ça nous intéresse.
Alors, là, attends.
Il y en a deux.
Donc je commence, enfin. Je dis comme je l'ai vécu. Donc tu dis Z-Event, moi je dis Z-Event. Parce qu'on est en France.
C'est honteux, monsieur. Honteux.
Voilà. Ça y est, troisième polémique.
Je vais sortir de ce plateau.
Donc c'est pareil, c'est un marathon caritatif où t'as une cinquantaine de streamers en fait qui se relayent le temps d'un week-end, pareil pour faire une petite collecte d'argent. Donc la petite collecte de cette année, elle a levé 3,5 millions.
Plus gros stream caritatif de l'histoire de Twitch. Enfin, voilà. De l'histoire des streams.
Et du coup, je trouvais ça super cool, quoi, que pour une fois, ça mette la lumière sur une communauté sympa, machin, qui fait une action bonne. Et en me renseignant un peu sur l'organisation de l'event, j'ai vu que Twitter avait pété un câble sur
le
sujet.
Alors, pas pété un câble, c'est... Alors, il y a deux... En gros, il y a un problème qui a été soulevé très maladroitement avant l'événement. Par,
je pense que le truc est basé sur une maladresse,
de Switch.
L'ampleur que ça a pris, c'est ouf.
Et il disait, en fait, ce qu'il soulevait, il disait qu'il y avait que des blancs. En gros, son tweet, c'était « il y a que des blancs aux Z-Event ».
Que des blancs et pas de nanas, j'avais vu.
Ouais, que des blancs et pas de nanas. Et ce qu'il soulevait, en fait, comme problème, très maladroitement, c'était son tweet était nul au possible. Mais le problème réel, c'est le problème de la représentativité sur Twitch. Qui est un vrai débat, c'est-à-dire que... n'importe qui peut pas streamer, il faut déjà du matos, donc si t'es issu d'une classe populaire, le PC à 7000 balles pour streamer, tu l'as pas. Mm-hmm. Si t'es dans les milieux aisés, en général, il y a plus d'éducation à l'expression, donc t'es plus facilement à l'aise en stream, et tout un tas comme ça de paramètres qui ont été listés, hein, il y a eu des articles qui sont super intelligents dessus. Qui explique sociologiquement le fait que sur Twitch, oui, comme sur toute autre plateforme, c'est aussi victime du conditionnement social. C'est-à-dire que c'est pas seulement la méritocratie de tu te cales devant ton écran et si t'es bon, tu réussis. Sauf que son tweet était maladroit. Son tweet disait aux events, il y a que des blancs et des mecs. Twitter l'a pris pour une attaque personnelle sur Dash. Et Zerator, donc les deux organisateurs de l'événement. Donc Zerator et son sidekick, en fait, Dash, qui est son frère d'armes. Et ça s'est embrasé parce que c'est du caritatif, donc on ne peut pas critiquer. Ce qui est quelque chose que tu peux comprendre, c'est-à-dire les arguments, c'était il invite ceux qui font le plus de vues, ce qui n'est pas vraiment vrai. Il invite ses potes, ce qui est vrai, mais enfin à la limite, Osef,
quoi,
c'est lui qui organise le truc.
Voilà.
Ouais, non, on est d'accord. Et voilà. Et donc ça a pris donc avant l'événement. Ça s'est calmé en vrai en un jour. Donc c'est vraiment juste polémique Twitter. Et c'est ressorti à la fin parce que effectivement il y a un problème de représentativité. Il y avait que, je crois que sur 56 streamers, il y avait 3-4 filles. Et voilà, mais c'est un problème de représentativité qui est inhérent à Twitch, qui est pas inhérent aux events. Après, on peut se demander pourquoi Zerator pousse pas de ce côté-là, dans le sens où il a invité, par exemple, bon, après c'est son pote et ça se comprend, hein, je suis pas là, enfin c'est... Je remets absolument pas en cause l'événement, je l'ai suivi comme tout le monde et j'adore. Mais il y a le... Par exemple, il y a Wingobert qui était invité, qui a fait 300 viewers à tout péter, alors que, je sais pas, une streameuse comme Damdam, par exemple, aurait sûrement fait plus de vues. Donc voilà, c'est une question à soulever, mais ça remet pas, ça remet, enfin les gens qui soulèvent ça ne remettent ni en cause, de toute façon, la légitimité du G-Event, comme événement caritatif énorme, énorme et ultra important, et ça remet ni en cause Zerator, quoi. C'est pas, ouais. C'est pas lui le fautif.
Tu vois, j'enchaîne, tu sais ce que ça n'a pas remis en cause de mon côté, mon opinion de Twitter. C'est cette oui. espèce de fange que c'est devenu, de dictature de la bien-pensance, où quoi que tu dises, tu vas offenser quelqu'un et ça va partir en live. Je rêve d'un monde où les gens s'en battraient la race, quoi. Tu vois, que tu puisses faire dire ou faire des belles choses sans que t'aies quelqu'un qui vienne chercher le petit pouls là pour essayer d'attirer la lumière.
Oui, bien
vers
sûr.
Bienvenue sur Mastodon.
Ouais, voilà, oui, j'arrive.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a aussi le problème de la mise en avant de certains gars comme par exemple Sardosh. Il a des idées qui sont ultra puantes. Et est-ce que au nom de la charité, tu peux le mettre en avant, tu vois? Est-ce que ça compense?
Okay, ça, je savais pas.
Sardosh qui est ultra misogyne, tout ce que tu veux, quoi. Et je sais que ça restera sur Internet, mais je m'en fous parce que de toute façon, ce gars, voilà. Il a qui son combat à un moment donné, c'était les e-girls. Il appelait des e-girls, c'est-à-dire des streameuses qui mettent en avant leur corps, quoi. Selon lui, pour attirer des gens, en disant moi, si j'ai un petit frère, je veux pas qu'il arrive sur Twitter et qu'il voit des gens torse nu. Et qui voit des dessins, alors que lui faisait des streams en caleçon, quoi, si tu veux. Voilà. Donc, il y a aussi la question de ça. Est-ce qu'un événement comme ça peut, au nom du fait que Sardosh récolte de l'argent, et c'est vrai, il a une communauté assez active, donc il récolte de l'argent, est-ce qu'au nom de ça, tu peux laisser passer ses idées? C'est aussi une question.
On est toujours dans le même problème, hein. Peut-on séparer l'artiste de l'art?
Oui, ben moi
alors
je vois
là, l'artiste, c'est compliqué, l'art aussi, mais ça reste la même question, c'est-à-dire que...
Moi, je vois plutôt, toi, t'as une assoce qui a besoin de sous, qu'elle prenne le pognon de quelqu'un de bien ou d'un connard, ben, prends le pognon.
Oui, mais
c'est un point de vue.
Pas seulement ça, parce que c'est-à-dire que pendant 56 heures, parce que c'est aussi une manière d'échanger des communautés, hein, Diamond, c'est comme... je vais pas faire d'allégorie... je n'oserais pas faire des... une allégorie avec les partous et les MST, ce qui serait inacceptable sur ce
alors
podcast.
Là, je serais encouragé sur
je
ce...
Je ne veux personne dire... Je ne veux entendre personne dire quelque chose comme ça, hein, ce serait honteux. Mais faut avouer que ça donne de la visibilité pendant une cinquantaine d'heures à Sardosh et ses idées, et ça lui fait grossir sa commu.
Pas aussi un moyen de montrer l'absurdité de ce genre de pensée? Je sais pas.
Bah ouais, mais manifestement il plaît. Mais oui, bon, enfin, en tout cas c'est un débat qui est trop long pour être abordé là.
Ouais. Voilà, je trouvais juste dommage que ça ait entaché la belle réussite du truc.
Mais en tout cas oui, enfin c'était incroyable, et chaque année c'est vraiment une réussite très dramatique à chaque fois, alors que c'est du direct. Et pourtant ils arrivent à travers les dons à faire à scénariser le truc, c'est vraiment très très cool.
Voilà, le dernier petit point qu'on va aborder, c'est la Switch Lite est sortie, ça y est, en plusieurs coloris, ça y est. Alors au dojo, il y a que
Keowan
sur le forum, je crois qu'il l'a acheté Day One. Tardy, il l'a déjà acheté?
Il me semble, je sais plus.
Je suis pas sûr. Bref.
Essaye de la brancher sur son dock.
Kyo, il essaie de la brancher sur son dock. Bon courage, bro, si tu nous écoutes. on te kiffe. Visiblement, il n'y a pas la puce de transcodage vidéo qui permet de brancher sur l'USB-C à l'intérieur, c'est-à-dire que les premières personnes qui l'ont démonté ont vérifié, donc c'est pas un blocage qui est logiciel, c'est vraiment un blocage matériel.
D'accord.
Il y a visiblement quelques couacs déjà sur le firmware, c'est-à-dire que quand tu réinitialises ta Switch Lite, elle te demande de brancher les Joy-Con,
oh.
ce qui est très bien joué. Bon bref, bon, on suppose que ça va finir par venir. Malheureusement, les sticks le stick gauche et le stick droit sont les mêmes que ceux des Joy-Con. Nouvelle version. Alors c'est les mêmes que ceux de la Switch HAC0101. Donc la révision.
Meilleure batterie.
Meilleure batterie. Enfin c'est pas meilleure batterie, c'est plus moins gourmande, donc meilleure batterie. Voilà. En dehors de ça, ben effectivement pas de grosse évolution. Si quand même. 100€ de moins sur le prix. Alors le truc c'est que quand tu regardes un dock, ça fait 60€, une paire de Joy-Con ça fait entre 70 et 80, on s'y retrouve pas encore. Mais bon, on va pas venir cracher dans la soupe. Bref, donc on souhaite une bonne vie à la Switch Lite. Je pense que maintenant la 3DS...
Une belle mort la 3DS.
Voilà, ça fait un moment qu'on le dit, ça fait un moment qu'on le dit, c'est fini maintenant, mais là, je veux dire, c'est le dernier clou dans le cercueil. Hein, y a
merci
vraiment
pour
plus...
tout, c'était cool.
Voilà, merci pour le poisson. Ouais. Au revoir. 3DS, on t'a kiffé. On te souhaite une bonne mort. excusez-moi. Voilà, donc la Switch
Lite... Non, on n'oublie pas.
Non, on n'oublie jamais.
On n'oublie pas.
La 3DS, merci. La Switch Lite maintenant. Je pense que Nintendo, je sais plus combien il y a de Switch dans le monde, mais c'était déjà assez monstrueux. Là, avec la Switch Lite, à mon avis, ça va devenir complètement délirant.
Et alors, est-ce que ça va être décliné en 50 versions comme la 3DS?
Bah,
ça,
t'as déjà la version Pokémon à la fin.
T'as déjà
non, mais,
3 couleurs
Switch
disponibles
Lite,
au lancement
New Switch Lite, Switch Lite Plus.
Je pense pas. À mon avis, ils ont pas intérêt à faire 150 modèles. Ce que je vois là aujourd'hui, c'est surtout qu'on a. On a une révision de la Switch. La Switch Lite, elle est vraiment pas destinée, je pense, tout à fait au même public. C'est-à-dire que moi, très honnêtement, aujourd'hui, si je devais en racheter une, je rachèterais plutôt le nouveau modèle.
Ouais, la même.
Parce que plus de batterie, mais parce que toujours la possibilité de le brancher sur un écran et tout ça, je trouve que pour 300 balles, ça les vaut. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, très honnêtement. Ce que je pense, c'est que...
Ouais, je suis plutôt ok avec Nuzlurfe, enfin, je le sens vraiment comme le truc orienté kids.
Ouais, c'est pas impossible.
Ouais. Et mais même, la plage, je sais, la tranche d'âge qu'il ciblait au début, je crois que c'est trentenaire, quarantenaire, cadre moyen, je sais pas quoi, qui ciblait dans les premières pubs, je pense aussi qu'elle est très intéressée par cette solution, quoi. Parce que c'est moins galère.
Moi qui suis plein dans la tranche d'âge...
Oui, mais.
LOL. Et dans t'es le pas... CSP+, si, bah, j'y suis.
Non, mais t'es pas dans le joueur moyen qui joue occasionnellement et machin, tu vois.
Pas tout à fait, mais par contre, clairement, à partir de dans pas si longtemps que ça, je vais de toute façon avoir plus de transports en commun à faire. Donc le fait de dire je prends une Switch Lite parce que ça va plus vite acheter dans le sac et je peux rejouer à tous les jeux que j'ai et partager mon compte Nintendo et tout ça. Moi, ça me paraît pas totalement déconnant.
Ah oui, surtout que c'est moins cher et c'est une solution qui paraît plus facile d'accès que la Switch de base.
C'est ça.
Parce que t'as pas les manettes qui se déballent, t'as pas machin, ça paraît moins modulaire, quoi.
Si c'est pour jouer que en mobilité, je dis, c'est pour vraiment le truc où tu dis, de toute façon, la Switch, je n'y joue que dans les transports. Quand je suis rentré chez moi, je n'y joue pas parce que j'ai pas le temps, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense. Je pense que c'est la solution idéale. Maintenant, si c'est la console que, effectivement, quand t'es rentré chez toi, tu la branches, pouf, l'image est sur ta télé, tu continues ta partie, ce qui est quand même un peu le concept du truc de base.
Et le nom.
Et le nom. Là, un peu perdu. Mais je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Je pense que ça peut avoir un public, en plus des mioches. Il n'y a pas que les mioches, je pense.
Non, mais on a des génies dans le chat. C'est vrai que la Switch, nouvelle console, était sortie avec un nouveau Zelda. Et là, on a un remake de console qui sort avec un remake de Zelda.
Effectivement.
C'est bon.
Bon, allez, on va marquer une première petite pause musicale parce que du coup, j'ai un
petite.
Peu du mal avec la gestion du temps. Alors, petite, oui, non, je l'ai réduite.
Ok.
Je l'ai réduite. Alors, c'est le thème principal de Daemon X Machina et donc, en fait, il se joue en deux mouvements. Et la seule différence entre le premier et le deuxième mouvement, c'est que dans le deuxième mouvement, il y a une piste de clavier supplémentaire. Mais c'est exactement le même mouvement. Donc, vous allez écouter le premier et pas nous casser les couilles. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même justifié, parce que sinon ça fait 7 minutes et demie, c'était un petit peu long.
Je vais aller plaindre sur Twitter. Voilà.
Donc là, ça dure 3 minutes 30, on se retrouve tout de suite après, c'est donc le thème principal de Daemon X Machina. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour. Je m'en fous, je refais tout.
En coulisses, il s'est passé des trucs complètement ouf. Hein. Je
n'avais
pas compte, mais...
On vient de retourner. On vient
totalement pas. Donc, Demon X Machina, qui est un jeu qui est développé par Marvelous.
C'est le développeur, pas la critique.
Ouais.
On va pas y arriver. C'est quand même très très compliqué. Ta gueule. Le chat qui est en train de miauler.
On la refait, hein. C'est ça.
Non, non, on va pas la refaire, c'est bon, faut arrêter de déconner.
Une émission de professionnels.
Une émission réalisée par des professionnels et agents de la paix avant tout. on va pas y arriver. Bon. Donc, Demon X Machina, des mechas, des boobs, du métal. Alors, des boobs, en fait, moyennement, finalement, d'ailleurs. C'est un peu. Voilà. Un jeu, donc, Marvelous, édité par Nintendo. L'idée étant. Donc, c'est un jeu de mecha.
Oui.
Dans lequel on a un mecha qui s'appelle un Arsenal et on incarne un pilote de mecha qui est un Outer. Alors, je sais pas comment c'est traduit en français d'ailleurs. C'est traduit ou c'est pas traduit dans la VF ?
Non, c'est Outer.
C'est Outer, ok.
Un
Outé, qui est donc en fait un pilote de mecha. Enfin, un pilote d'Arsenal. Et donc, l'Arsenal, c'est quand même un truc. Alors, en plus de personnaliser son pilote. Alors on le personnalise au début et en fait on peut continuer à le personnaliser au cours du jeu.
Ouais, j'aurais une petite critique là-dessus, mais vas-y.
Oui, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. je te laisserai y aller. Donc l'idée c'est que l'Arsenal, en fait, il a, on peut quasiment tout personnaliser dessus, c'est-à-dire qu'on peut mettre des peintures, on peut changer, voilà, Pimp My Mech, nous dit-on.
Ah, c'est ça va jusqu'à la décalco, quoi.
Alors, il y a la couleur de base, il y a des décalcos qu'on peut mettre, donc on peut changer la taille, la couleur et tout ça, donc on peut vraiment le personnaliser. Il a des poses hyper badass quand tu lui demandes, quand t'appuies sur je sais plus quel bouton dans l'inventaire, tu peux voir les poses avec le fond, le machin, enfin c'est presque le mode photo, quoi. Et en fait, surtout, ça s'appelle un arsenal, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que le truc est blindé d'armes.
Donc t'as
une arme main droite, une arme main gauche, une arme épaule gauche, qui est généralement un lance-missile, lance-grenade ou quelque chose comme ça. Donc l'arme épaule gauche. Donc main droite c'est ZR, main gauche c'est ZL, L c'est l'épaule gauche. Donc ensuite tu as un pylône droit, pylône gauche. Donc ça en fait ce sont des armes secondaires que tu peux échanger avec ton arme primaire. C'est les omoplates, voilà, c'est exactement ça. Donc ça fait déjà 5 armes. Et le dernier c'est tu as une grenade mine explosif, hein, ce genre de choses là. Qui est donc. Alors je sais plus, je crois que c'est Y.
Je sais plus.
Y ou X, je me souviens plus.
J'étais en train de bloquer sur les. Tout ça, en fait, tu peux le moduler. Tu peux aller tuner tes armes avec des petits modules.
Voilà, oui. Alors, pas toutes les armes, mais il y en a beaucoup où tu as effectivement des petits modules que tu peux aller rajouter pour augmenter leur puissance de feu, augmenter leur cadence de tir, augmenter la taille du chargeur, etc. etc., etc. De ce point de vue-là, de point de vue de personnalisation du mecha et tout ça, c'est la folie. Il y en a partout. Sachant qu'en plus, tu peux pas charger ton mecha à mort parce qu'il a un processeur et que donc tu as une limite maximale de ce que tu peux porter.
Yes.
Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Enfin, tu peux pas faire totalement n'importe quoi. Tu peux même faire bien n'importe quoi, mais pas totalement n'importe quoi. Et donc, en termes de gameplay, donc comme je disais, ZR l'arme droite, ZL l'arme gauche, L pour l'épaule. Tu utilises la croix pour échanger l'omoplate et le bras, en gros. Et R pour booster, B pour sauter, Y ou X pour la grenade, je me souviens plus. Et c'est à peu près tout. Si, quand tu cliques sur le stick de droite, tu peux te dédoubler à partir d'un certain niveau dans la mission.
Ah, oui, aussi, il y a les pouvoirs. Ouais.
Alors, oui, il y a les pouvoirs, c'est-à-dire que tu as des femtos. Qui sont en fait une espèce de... Alors, c'est le jeu, il y a des jauges partout, il y a des... Enfin, c'est le bordel, hein, faut quand même... Là-dessus, il faut quand même reconnaître, faut qu'on en parle un petit peu. Mais...
Le HUD est customisable.
Oui, le HUD est customisable quasiment 100%, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc en plus de ta barre de vie, t'as une barre d'endurance et t'as une barre de femto. Le femto étant en fait une espèce d'énergie que tu peux récolter sur les ennemis morts ou sur le terrain. Et l'idée, c'est que tu as trois formations pour ce femto. Il y a une formation attaque, qui te permet de booster tes armes, mais qui diminue ta défense. Ça paraît logique. Mm-hmm. Tu as un truc de défense, qui donc te permet de résister mieux aux attaques ennemies, mais diminue ta mobilité. Et tu as une formation mobilité du femto qui te booste à mort en termes de mobilité, mais qui diminue considérablement ton attaque.
Et quelque
chose comme ça. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre.
Il y a un neutre, c'est tout.
Il y a un neutre. Ah oui, il y a un neutre. Ah, je l'ai pas trouvé, ouais. Moi, le neutre. Je finis toujours plus ou moins en mobilité, en fait, moi, mais une question d'habitude. Et donc derrière, bah oui, effectivement, on peut absolument tout personnaliser. Donc c'est des armes et des armures qu'on ramasse sur le terrain. Donc soit en abattant d'autres arsenals, soit en les achetant dans le magasin, soit en les forgeant dans l'usine, soit en allant modifier celles qu'on a déjà. Il y en a partout. Et donc, la personnalisation du personnage, donc je vous en prie, monsieur Mecton, puisque effectivement, je pense que ça va être la même.
J'ai ri, j'ai passé un temps fou à me faire un visage correct. Et un petit peu plus tard dans le jeu, tu peux acheter en gros des augmentations physiques qui ont ruiné mon visage.
Voilà, c'est le truc très con. Alors on te prévient quand même.
On te prévient, on dit attention, ça va, tu vas prendre cher.
On te dit, ah tu veux les yeux bioniques, attention parce que tu vas avoir des yeux brillants maintenant. Mm. Et tu vas ressembler à rien. Enfin voilà, c'est...
Ah, alors non, Yoshiryu, on ne peut pas mettre de boobs sur le mecha, désolé.
Non, on peut pas mettre de boobs, mais tu peux avoir une meuf. Et en fait, les personnages féminins sont plutôt assez bien foutus d'ailleurs. Et donc en termes de déroulement et de gameplay... Alors, comment ça se passe? Donc, on va dire que c'est un peu compliqué. Les missions, c'est généralement... Il faudrait aller enquêter sur ce morceau de terrain de Sky Union. Alors j'ai rien compris à l'histoire, mais d'une violence...
Moi non plus.
Voilà, merci, je suis pas le seul, je me sens moins seul.
Il y a la lune, elle est tombée, et puis voilà, hein, c'est la guerre.
C'est la guerre.
La lune, elle est tombée.
C'est la suite
comment
de Majora's Mask.
Tombée.
C'est la suite de Majora's Mask.
Non mais parce que je... Si, parce non, qu'il y a dans l'espace, quand même.
Non mais, donc, ce qui s'est passé. Donc, la mauvaise fin de Majora's Mask, tu vois, la lune oui. tombe sur la Terre. Et ben là, c'est exactement la même chose, sauf que quand ça a fait ça, ça a libéré du femto. Et donc, d'accord. maintenant, c'est la guerre.
D'accord.
Voilà. Donc, t'as des IA, elles sont devenues méchantes. Et il faut les taper.
Les salauds.
D'accord. Et il y a plein de factions. Il y a Zen, il y a Sky Union, il y a...
Orbital.
C'est un bordel sans nom, quoi.
C'est un bordel sans nom, ouais. Ben, et ça, en plus, alors, t'as des... Alors, je crois que c'est des nations. En gros, Orbital, Sky Union et tout ça, c'est des espèces de factions. On va dire, de nations, enfin, je ne sais pas exactement comment on dit ça.
J'ai cru que c'est des groupuscules de mercenaires. Mais...
Non, les groupuscules de mercenaires, c'est les gars qui peuvent venir avec toi à une mission, puis te taper la mission d'après, tu comprends pas pourquoi.
Ah, par exemple, c'est un bordel.
Voilà, t'as Western 7, tu fais la première mission avec eux, mais à la quatrième, c'est eux qui viennent te casser la gueule. Mm. Parce qu'ils ont été embauchés, parce que tu travailles pour Zen, et eux, ils ont été embauchés par Sky Union pour venir te péter le cul.
J'ai rien compris au scénar, moi.
Ah non, mais c'est un truc de fou, hein.
Mais donc du coup, si le scénar il est incompréhensible, le jeu, ça se passe comment?
Alors,
est-ce
ça
que
se passe
tout aussi incompréhensible?
Alors non, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et fort heureusement. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as des missions avec des rangs. Donc tu commences par le rang E, puis le rang D, puis ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fini le rang D, je suis au rang C.
Je
commence à avoir des missions où il y a des petits gros mechas. Et ça, c'est cool. Et je commence surtout avoir un mecha qui a, enfin, il a triplé de volume. Il a fait de la muscu, tu vois. Il est à fond. Il a triplé de volume, j'ai des snipers, des menottes, des pantalons en cuir, enfin c'est vraiment, c'est la folie. Bref.
Le mecha ça...
Oui.
Le mecha a un pantalon en cuir.
J'aimerais bien, putain.
Ça sympa.
Ce serait énorme. Donc, il y a Yoshiro qui nous dit c'est des méga corporations comme dans tous les trucs SF, oui.
Oui, mais même, alors, dans Titanfall 2, pareil, il y a des corporations de partout, il y a 10 milliards de gangs, et j'ai rien compris, perso, à l'histoire.
Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que tu as ton maker, on te lâche sur le terrain, et en général, on te dit, bah, faut nettoyer toutes les IA du terrain, donc éliminer tous les petits robots, en fait, un peu bidons, et de temps en temps, au milieu de cette mission-là, tu vas avoir un Z-Event, donc tu as tout d'un coup un arsenal, deux arsenaux, ennemis qui débarquent pour te péter ton cul. Ou tu as, on te dit, ah vite, il faut aller protéger tel bâtiment. Bon, c'est assez rare, parce qu'en fait, les missions d'escorte, il n'y en a pas tellement.
Le problème... Chiante, hein.
Oui, un peu, ouais. Mais le problème, surtout, c'est qu'en fait, les missions sont, grosso modo, toutes les mêmes. Alors après, tu vas me dire, c'est un jeu de méca, il n'y a pas 150 000 trucs à faire. Surtout quand t'as beaucoup d'armes comme ça, en fait, c'est... Mais je me rappelle d'une mission où, dans le briefing, le fort, donc l'espèce de
DIA
qui te sert de...
DIA, mais gentil. C'est DIA, bordel, gentil, ce
qui te sert de maman. Donc oui. La maman IA, elle te dit, il faut aller dans tel secteur pour enquêter sur... Il y a un pic d'énergie, c'est très curieux. Par contre, comme il y a un pic d'énergie, interdiction d'utiliser vos armes. T'es là genre, bon, bah ok, tu vois, c'est cool, on va faire une mission de... Voilà, faut fouiller un truc pour trouver, quoi. C'est ce que tu te dis au départ. Puis tu débarques, puis on te dit, oh là là, au bout de 10 secondes, hein, vraiment, hein, littéralement 10 secondes, tu dis, oh là, mais il y a plein d'IA, bon bah c'est bon, utilisez vos armes, on s'en bat les couilles.
D'accord. Oui. Mais donc, est-ce que, parce que visuellement, ça avait l'air, enfin visuellement, de visu, c'est-à-dire sur les bandes annonces, ça avait l'air d'être, comment s'appelle le jeu avec Norman là, Star Fox.
Starlink.
Starlink. Ça avait l'air d'être un Starlink en mieux. Alors. Est-ce que c'est le cas? Parce que le cœur du jeu a l'air d'être le même. C'est-à-dire, on te débarque dans une zone et tu tires sur des machins, quoi.
C'est ça. Bah, en gros, le jeu, c'est quand même à peu près ça. C'est-à-dire que les missions sont hyper, hyper, hyper répétitives.
Et très courtes.
Ah.
Et très, très, très courtes. Je pense qu'en moyenne, je crois que la mission la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent, c'était une des dernières du Rendez, dans lequel il fallait latter un putain de gros mecha. T'as une espèce d'araignée mécanique qui débarque.
Oui, ok.
Qui fait 10 fois ta taille. Quand je dis 10 fois, peut-être même plus. Là, par contre, tu passes un bon quart d'heure à lui bastonner le cul, quoi. Et tes potes sont autour et tout ça, et c'est vraiment pas... Enfin, faut vraiment... Je me suis surpris à 3-4 fois. Donc le problème, non, en fait,
sinon c'est 3-4 minutes, quoi.
C'est ça, l'émission, elle dure 5 minutes. 5 minutes parce qu'en fait, t'as un arsenal, lol, t'as tellement d'armes, t'es tellement blindé, tu roules sur le jeu, quoi. En tout cas, en rang E et D, tu roules sur le jeu. À partir du rang C, ça commence quand même à beaucoup moins rigoler, hein. C'est-à-dire que tu peux pas y aller guns blazing en mode, je débarque...
Coucou, c'est moi, bum.
Mais si le jeu est répétitif, tant mieux, non, que les missions soient courtes. Parce que s'il est répétitif et en plus les missions font 10 heures chacune.
Gars, le problème c'est pas ça, c'est qu'en fait t'arrives, on te dit, t'as le briefing de Ford qui te dit Sky Union nous a donné une nouvelle mission, il va falloir enquêter sur la zone. Donc, enquêter ça veut dire buter tout le monde. Hein. Faut quand même être.
Oui, t'enquêtes à la Batman, quoi.
T'enquêtes à l'inspecteur Harry, si tu veux. C'est-à-dire, quand t'as fini l'enquête, normalement, il n'y a plus de suspects parce qu'il n'y a plus de victimes, quoi. c'est un peu le concept. Bon.
Tu débarques dans une zone.
Tu butes les IA. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les zones, en fait, alors, c'est à la fois un problème et pas un problème. Le décor des zones, tout le décor de zone se ressemble quasiment tous. C'est un désert avec des bâtiments. Et c'est pas une blague, hein, c'est quasiment tous ça. Je n'ai pas vu autre chose pour l'instant.
J'ai vu une petite forêt à un moment, j'ai vu des tunnels. Des tunnels ferroviaires. Mais c'est très répétitif là-dessus aussi.
Ça reste aussi, t'as genre trois décors. En fait, ce qui se passe, t'as l'impression que le décor, il est pas généré aléatoirement, mais presque. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis un désert et ils ont mis des bâtiments plus ou moins aléatoires. Après, ce qui est cool, c'est que le placement des ennemis, leur comportement et tout ça change à chaque fois. Donc, t'as quand même un petit côté stratégique. T'es obligé un peu de t'adapter en te disant, je vais commencer par buter les tourelles là, je vais aller buter la nuée d'IA qui est ici, et ensuite j'irai m'attaquer aux tanks qui sont plus bas et tout ça. Mais le problème, c'est que tu fais que ça, quoi.
Ouais. Ouais, c'est. Donc... S'il n'y a pas de variation de gameplay, parce que du coup, pour reprendre. Enfin, bon. Parallèle avec Titanfall 2, la campagne que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est un FPS de base. C'est un FPS bateau, quoi, comme on en a depuis 15 ans. Sauf que bah, déjà, il y a la manière de se déplacer. Il y a les mouvements qui sont très agréables. Mais ça, à la limite...
Voilà, c'est ça. Je connaissais un jeu
dans d'autres Call of Duty, quoi.
Qui s'appelait, je crois que c'est Hawkeye, ou quelque chose comme ça. C'est un jeu de mecha qui est sponsorisé par Nvidia, qui est un free-to-play sur PC. Hawk quelque chose. Et en fait, le simple fait d'avoir la lourdeur du mecha, ça change aussi beaucoup le... Ça rend le truc très agréable. Et là, tu retrouves un peu ça, je trouve, aussi.
Mais même au-delà de ça, c'est un FPS... Enfin, ça aurait pu être une campagne de FPS, tout ce qu'il y a de plus bateau. Mais à chaque mission, t'as un twist dans le gameplay qui rend le tout ultra intéressant. Par exemple, moi, je veux pas spoiler, mais... c'est compliqué sans spoiler. Mais en gros, bah... T'as des missions où déjà t'as pas du tout de titan, t'es largué à toi-même. T'en as d'autres où t'as des séquences un peu oniriques, où en fait c'est du plateforme, c'est de la plateforme. T'as plein de petits twists comme ça, ce qui rend la campagne intéressante. Mais effectivement, là, si tu me dis que la campagne, ça se résume à avoir ton briefing, arriver tout dégommé et c'est basta,
c'est un peu relou. C'est même pire que ça, en fait. C'est là où je trouve que le jeu est... C'est très bizarre comme jeu, en fait. C'est-à-dire que quand quelque chose marche, ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que la boucle de gameplay est à chier, mais tout ce qui est jouabilité, tout ce qui est les armes que tu as, la personnalisation du mecha, tout ça, ça marche hyper bien.
Ouais, c'est un problème de level design, quoi.
T'as un problème de level design. Ouais. Enfin, mais pour moi, t'as un problème de boucle de gameplay. C'est-à-dire que les mecs sont pas arrivés à faire quelque chose de plus intéressant que ça. Et même toutes les arènes dans lesquelles tu te bats sont hyper petites. Et en fait, ça joue aussi sur le truc. C'est-à-dire que finalement, si t'avais une progression, comme dans un... Alors, je suis désolé, je vais encore reprendre un exemple à la con, mais Rock Squadron, t'as peu de missions surprenantes, tu vois. T'as des missions d'escorte, t'as des missions de bombardement, de tel truc, des missions de sauvetage. C'est pas hyper varié. Mais les décors sont très variés. Et en fait, le déroulé des missions lui-même n'est jamais le même. C'est-à-dire qu'une mission d'escorte, elle se passera pas bien. T'as un twist au milieu, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment, ah putain, il y a le Superstar Destroyer qui débarque. Et là, tout d'un coup, on te dit, hey, faut arrêter de protéger le machin parce que voilà, faut aller détruire les TIE Fighters à tel endroit. Et donc, tu passes en mode dogfight, tu fais ton truc et tout ça.
Ouais, je vois.
Voilà, sa vie. Alors que là, finalement, on te lâche dans une arène, tu vois tout d'un coup, tu vas un peu trop loin, on te dit, la mission est arrêtée. Et c'est vraiment très claustro, c'est tout petit. Et t'as pas de vraie progression où tu peux te dire t'as le début de la mission qui est à tel endroit, la fin de la mission qui est 5 km plus loin, et entre les deux tu as vu plein de décors, éliminé plein d'IA. Moi ça me dérange pas hein, d'aller buter tout le monde et tout ça, je trouve ça très bien, hein, la partie gunfight marche très bien, c'est hyper satisfaisant comme gunplay. Pas de problème là-dessus. Mais, ben voilà, la structure du jeu est chiante quoi. Donc ah c'est ouais, typiquement c'est le genre de... C'est hyper dommage parce que vraiment le fond de gameplay est très bon.
Mais ça vendait du rêve en trailer, hein, pour le coup, moi. Enfin, j'ai suivi que les trailers, je l'ai pas suivi, je l'ai découvert, tu sais, la bande-annonce qu'ils ont balancée, là, au pif, oui, pendant un Nintendo Direct, personne s'y attendait. Il y a eu, récemment, la dernière bande-annonce, et ça avait l'air très très cool, quoi. Mais j'ai pas plus suivi que ça. Mais c'est vrai que si tu me dis que c'est le jeu final est chiant à cause de sa boucle de gameplay, c'est embêtant.
Bah, c'est emmerdant, parce qu'en plus... Pour de vrai, en fait, le jeu est pas si moche que ça par rapport à la première démo qu'on avait eue, qui était vraiment très limite en termes techniques. Là, le truc tient la route. Mecton, je sais pas si t'as eu la même sensation que moi. J'ai eu quand même assez peu de ralentissement. Mecha répond super bien.
Ouais, j'en ai pas spécialement vu. Voilà, j'aime bien la partie customisation où tout le truc est blindé de stats et tu sens la diff, quoi. Quand tu changes une pièce, genre tu changes les jambes, tu vois vraiment ton comportement qui va changer derrière. Tu sens, voilà, comme tu disais, la lourdeur de ton truc.
Tu sens que les boosts vont plus vite, tu sens qu'ils sont plus longs.
Que ton verrouillage marche mieux.
Exactement. C'est exactement ça. Quand le jeu marche bien, dans les trucs où le jeu marche bien, le truc est brillant. Brillantissime. Vraiment. Et quand il marche pas, eh ben c'est vraiment de la merde.
Bah, peut-être que le 2 sera...
C'est exactement ce que je me suis dit. Tu vois.
Comme un Titanfall, finalement. Pour boucler la...
J'ai retrouvé un petit feeling des premiers Monster Hunter. Donc vraiment, t'as des zones limites, des zones très limitées, pardon. Et ce feeling, je l'ai retrouvé aussi en fin de mission où le jeu te laisse une trentaine de secondes pour finir de looter les trucs que t'as pas eu le temps de récupérer en plein fight. T'as cette notion de hub central là qui finalement te sert juste à récupérer tes missions. Et j'ai pas encore essayé le multi, mais a priori, voilà, c'est des missions de la campagne. Classique, mais que du coup tu fais à plusieurs.
Faudrait qu'on arrive à se faire ça, mec, ton un de ces soirs, voir
ouais,
si on peut s'en
tester,
faire un,
ouais,
deux,
ouais, pour
juste
tester.
Au moins pour tester. Si ça consiste à affronter les gros mechas qu'il y a dans la campagne à plusieurs, ça peut être sympa.
Il me semble, mais sympa. Il me semble qu'il y en a. Je suis rentré dans le menu oui. Juste pour voir s'il y a quelques gens qui avaient créé des arènes et oui, les boss sont dans les missions dispo.
Voilà, donc. Enfin, je sais pas, on va peut-être conclure là parce qu'il y a pas.
Parce que, t'entends, il y a un truc, c'est que t'as un petit chat. Il y avait pas mal d'emotes, oui. Genre faire un signe, faire coucou, s'asseoir, applaudir. Et alors par contre, il y a un truc dont je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Et ça, je l'ai découvert en regardant dans les menus quelle touche correspondait à quoi. Est-ce que tu as essayé de rester appuyé sur X ?
Non. C'est censé faire quoi ?
Ton pilote s'éjecte et tu continues à pied.
Ah oui, alors non, ça peut être utile en fait.
D'accord.
En fait, dans l'arbre de compétences du pilote...
Là, j'ai vu, ouais, débloquer une épée.
Tu peux débloquer une amélioration qui est une épée laser, mm-hmm. Et qui en fait modifie ton bras droit. Donc ton bras droit devient un bras mécanique et t'as une épée laser. Et je me suis dit, what was that fic? Tu vois, qu'est-ce que le fuck? Et en fait, ton épée laser, elle est hyper bourrin. Mais genre, hyper, hyper bourrin. Donc, le fait de t'éjecter, enfin, de laisser ton méca de côté, de t'éjecter, de prendre ton machin et d'aller péter un truc que tu pourrais pas péter autrement, c'est peut-être pas totalement débile comme stratégie. Le problème, c'est qu'en fait, bourriner comme un connard dessus, ça marche aussi. Hein, donc, donc finalement, moi, je préfère rester dans mon méca et bourriner comme un connard. Maintenant, si tu te retrouves à Yep ou une raison pour une autre, c'est-à-dire ton méca est détruit, et ce qui m'est déjà arrivé une fois, bah, l'épée laser, tu l'aimes bien.
Ok.
T'es content. Je sais pas... Voilà, je sais pas, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Donc c'est... Je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut faire à petite dose, faut faire une ou deux missions, faut pas essayer d'aller faire une longue séance de 2-3 heures de jeu, parce que c'est des coups à vraiment s'emmerder pour pas
lancer. Et surtout, mais alors surtout pas y jouer pour découvrir une histoire de SF.
Ah non, clairement pas. D'autant plus que, alors ce que je disais sur la structure de la mission, on va juste terminer là-dessus, parce que c'est assez atroce, donc on a dit...
Oh, les dialogues.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Les structures de mission, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, tu pars pour enquêter, hein, vous avez bien vu les guillemets que j'ai fait en l'air, hein, donc c'est...
Ah oui.
Voilà.
Magnifique guillemets, hein, d'ailleurs.
Oui, non, complètement.
Ça fait longtemps que j'en ai pas vu d'aussi bien fait.
Mais c'est vrai que c'est un peu le truc, c'est on te file une Kalachnikov, mais attention, c'est juste pour se gratter le dos. Hein. Voilà, il y a
quoi
pas de... On te
Comment
file des armes de ouf et on te demande d'aller enquêter.
Et ah donc, oui, d'accord.
Enquêter,
oui.
Ça veut dire buter tout le monde, hein, nettoyer la carte. Ça c'est. Voilà, de ce point de vue-là, on pourrait faire plein de parallèles très intéressants, mais on va pas les faire. Hein. Donc tu pars enquêter.
je te sens cynique.
Un tout petit peu.
Je sais pas pourquoi.
Tu, les premières missions, on te dit bon, tu vas à tel endroit, faut nettoyer les IA, elles ont été repérées, tout ça. Et tu te dis ok, quasiment tout le rang E, c'est ça. Donc, on t'envoie te faire une mission en disant hé, hey, regarde, il y a une mission à faire à tel endroit, c'est Sky Union qui nous envoie. Alors tu dis ok, ils mettent un peu de contexte, très bien, pas de soucis. Faut buter tout le monde. Bon, tu butes tout le monde, t'apprends à te servir de tes armes, tu lootes des trucs, c'est cool. Et puis, à un moment, tu tombes sur une mission genre, maintenant, il va falloir enquêter. Et moi, je me suis dit, ok, variation de gameplay, très bien, cool. Et en fait, au bout de 10 secondes, mais vraiment, le truc, il te dit, faut buter tout le monde. C'est là, genre, oui, ok, très bien. Donc, bah, pareil, on dit, mission d'escorte, faut protéger la bibliothèque de données de je sais pas quoi. Je pense que tu l'as faite, celle-là.
Ouais, je l'ai faite. Voilà. Si, elle était dans la première démo, d'ailleurs.
Oui, elle était dans la première démo, c'était la deuxième mission. Et donc, là, tu pars pas enquêter, tu pars escorté, puisque c'est une mission d'escorte où il faut protéger un bâtiment fixe au milieu et il y a des mecs qui tombent dessus, donc qu'est-ce que tu fais? Tu butes tout le monde. Voilà, c'est intéressant, mais une mission d'escorte, il faut que le truc il bouge, tu vois, pour que ça ait un intérêt. Tu protèges un bâtiment fixe, donc tu butes tout le monde, quoi, c'est tout. J'ai même pas regardé l'énergie qu'avait le bâtiment, j'en ai rien à foutre.
Si je me suis fait troller par une mission d'escorte où tu dois escorter 3 voitures qui essayent de se barrer au milieu d'un...
Ah putain, j'ai pas fait celle-là.
D'un fight. Et dès le début, c'est donc t'as les petits dialogues qui sont pendant l'émission que perso je trouve insupportables parce que enfin voilà, t'es en train d'essayer de lire un sous-titre pendant que tu regardes ce que t'es en train de foutre avec ton robot. Enfin c'est compliqué. Enfin,
moi j'ai arrêté de lire les sous-titres, hein. J'ai mis le jeu en anglais comme ça je comprenais ce qui se passait. Mais en fait comme ça m'intéresse pas globalement.
Voilà. t'as les commandes dès le début de la mission. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je booste pour aller vers le point rouge qui est sur le radar machin. Bon, il y a 3 bagnoles machin, je les éclate en passant dessus, pas de soucis. Et là il y a Fort qui me dit surtout éviter de toucher les cibles à escorter, ça pourrait les casser. Mission échouée.
Bien joué.
Voilà.
Et donc le dernier truc insupportable, c'est que donc pour une mission qui dure 4 minutes, 5 minutes dans une arène toute petite où tu butes tout le monde, t'as Fort qui te fait 15 secondes de briefing pour t'expliquer qu'il faut enquêter. Et ensuite, t'as les mecs qui viennent avec toi en mission. Qui sont tous insupportables. Tous.
Ils parlent trop doucement pour ne rien dire.
Ils ont des gueules de cons. Ce qu'ils disent, ça sert à rien. Et en plus, les mecs qui t'accompagnent à la mission 1, c'est des mecs qui viennent essayer de te casser la gueule à la mission 3, tu comprends pas vraiment pourquoi. Le gars que t'as cru que c'était ton pote, en fait, non, c'est un sale traîtreux.
Non, mais c'est compliqué.
Je sais pas, honnêtement, je sais pas où ça va aller. J'ai vraiment envie de finir le jeu parce que je trouve que enfin, je sais que c'est cool le méca, tout ça, ça me fait bien triper, ouais, y a pas de problème.
Est-ce que c'est que les premiers rangs qui sont un peu bancals?
J'en sais rien.
J'espère.
De tout ce que j'ai lu un peu partout, non, c'est tout le jeu qui est comme ça. Hein.
C'est chier.
C'est con, il y avait un beau potentiel, mais voilà, perdu.
Scénario sur 20, exactement. Ouais, Yoshirio.
C'est effectivement ça. Bref. Bon allez, on va se faire une deuxième petite pause musicale. On va écouter un morceau qui nous a été suggéré par Monsieur Mecton.
Ah, faut que je le contexte.
De la bande originale d'Astral Chain, Task Force Neuron, contextualisation.
Ça ira très vite, c'est un thème qui revient très régulièrement dans le jeu, que perso j'ai adoré dès la première fois que je l'ai entendu. Vous allez l'entendre beaucoup, vous allez l'entendre souvent, si vous ne l'aimez pas, vous n'aimerez pas le jeu.
Et bien au moins comme ça c'est clair. Bref, on se retrouve dans un peu moins de 2 minutes, à tout de suite.
Nous
voilà de
retour. En direct.
Tour.
Heureusement qu'il y a le montage après.
Oui, oui.
Donc nous allons parler du dernier jeu de Platinum, qui est une exclusivité sur Switch publié par Nintendo, Astral Chain, qui était le début du tunnel. Hein, c'est le 30 août. C'est le début du tunnel, monstrueux. Alors je rappelle, hein, voilà, sous le nez, j'ai donc Bomb Chicken, The Messenger, Darksiders 2. Bloodstained Curse of the Moon, Link's Awakening DX, DXDX, Astral Chain, Demon X Machina, on s'en sort plus.
Là, c'était la foire au collector, c'était un régal.
On n'a pas parlé de la collector de Demon X Machina, bon c'est pas grave, il y a un déboîtage sur le dojo, allez voir, c'est très bien. Voilà. Donc, comme celui qui a le plus avancé sur Astral Chain, est-ce que tu l'as fini, Mecton ?
Je dois être à 2 fichiers de la fin, donc ils appellent ça des fichiers.
Donc t'es presque à la fin. D'accord. Parce que moi, je dois vous avouer, j'ai fait une heure en stream, et ensuite, malheureusement, j'ai été rattrapé par notamment Demon X Machina. Mais voilà. Donc,
Fire Emblem au milieu de tout ça.
Et Fire Emblem, c'est, voilà, j'ai été très compliqué. Donc, Astral Chain, c'est un jeu de Platinum Games, c'est une tentative de cyberpunk à la japonaise. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, oui, il y en a.
Est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
Non, il y en a. C'est globalement... Enfin... Le premier truc qui frappe en le voyant, si vous connaissez, j'ai bouffé son nom, Katsura, je crois. Donc le mec qui a fait Video Girls Eye, surtout Zetman. On reconnaît tout de suite sa patte et graphiquement ça en jette. Donc niveau contexte, donc ça se passe dans un futur plus ou moins lointain proche. Où en gros le monde a été envahi par des bébêtes d'une dimension parallèle, un peu façon Pacific Rim, sauf qu'elles sont moins grosses. Ils appellent ça des chimères. Donc ça a niqué la totalité de l'humanité, sauf une poignée de pélos qui avaient vu venir le truc et qui ont construit une ville au milieu de je sais plus quel océan. Ils appellent ça l'Arche. Donc en gros, imaginez New York, mais qui flotte, enfin plutôt Tokyo, pardon.
Je rappelle que...
Qui flotte sur l'eau.
Je rappelle que l'arche, en allemand, ça veut dire le cul. Voilà, ça me fait plaisir.
Ah.
C'est l'arche.
L'arche, nom qui est présent dans, alors selon
Indiana
l'INSEE,
Jones, oui.
Approximativement 600 milliards d'œuvres un peu science-fiction. Tu écris de la science-fiction, t'es obligé de mettre l'arche quelque part.
Y compris une excellente série télé, je fais une toute petite parenthèse que je vous recommande, qui est terminée, donc vous pouvez regarder en toute sérénité, ça dure 5 saisons, c'est pas très long, qui s'appelle Defiance et qui se passe dans les ruines de Saint-Louis aux États-Unis où il y a l'arche de Saint-Louis, vraiment. Donc je confirme. Mais donc l'arche, donc le cul, qui est néo-Tokyo mais au milieu de l'océan.
Ouais, c'est ça. Donc, ville organisée en blocs, en différents blocs. En gros, t'as un centre-ville qui va être un peu le quartier, voilà, qui va bien, où il y a tous les magasins, the place to be. et des zones d'habitation, et une zone qui s'appelle zone 9, si je dis pas de conneries, où il s'est passé un truc qui fait que cette zone entière est sous quarantaine, et voilà. Le jeu commence par une petite scène d'intro. Alors en gros, du coup, t'es vraiment dans du scénario de SF Jap, très cliché. Dès la scène d'intro, tu comprends qui est le méchant.
Le sale traîtreux, tu veux dire ? Il est blond ?
Il a les cheveux longs. Ben oui. Enfin, voilà. Non, en fait, c'est les cheveux blancs, mais c'est voilà, une manière de parler particulière qui fait que dès que tu le reverras, tu te diras « Toi, tu sens le traîtreux ». Alors on y joue un flic ou une fliquette au choix, ça fera plaisir à Twitter.
Oh mon dieu.
please
là,
stop
pareil, petit, on peut la customiser si tu veux en faire un nom genré. Non, je déconne. Ouais, j'en vois, j'en ai plus rien à
dire. Bienvenue sur l'heure des pros avec Pascal Bro.
Et voilà, donc au départ, c'est deux jumeaux. T'as donc un garçon et une fille, deux jumeaux. Tu vas choisir lequel tu veux jouer. Le scénario va inclure et faire parler l'autre, sachant que celui que tu as choisi restera désespérément muet tout le long du jeu. Donc oui, le monde a été envahi par des chimères. Tu as donc les gens qui ont eu du pif et qui ont construit l'arche, qui ont réussi plus ou moins à en créer ou en apprivoiser, c'est pas vraiment clair, pour en faire ce qu'ils appellent des légions. Les légions, donc c'est des chimères que ces flics peuvent contrôler pour en faire leur petit caniche, quoi, pour les envoyer à la baston à leur place ou en faire d'autres choses. Je reviendrai dessus après.
Mais du coup, tu bastonnes des chimères avec des chimères, c'est l'idée ?
Tu bastonnes des chimères avec des chimères, exactement. D'accord. Donc au début, toi, tu en as une, tes potes, ils en ont tous une. Quand ça fight, tu te fight, tu vois tes potes qui fight à côté, c'est cool.
Une qui est liée à toi.
Voilà, et le scénar va par une chaîne astrale, ouais. Incroyable. Et le scénar va faire que tout ça va partir en couille, tu vas être le seul à garder ta propre légion, les autres vont partir faire des choses. Et au fur et à mesure de l'avancée du scénario, tu vas les récupérer une par une, et elles sont toutes typées. Donc celle que tu as au départ, c'est genre la légion épée, après tu vas récupérer la légion arc, la légion point, la légion bête. Et la dernière, je sais plus. Mais voilà, à chaque fois que tu vas en récupérer une, ça va rajouter un petit élément de gameplay. Tiens, bah j'enchaîne tout de suite sur le gameplay. Vous allez bousiller les gâchettes de vos Joy-Con avec ce jeu.
Taper.
Donc taper, c'est ZR.
Taper.
Voilà, taper. Contrôler la légion, c'est ZL.
Et... Alors, sachant contrôler, c'est quoi ? C'est juste l'envoyer, la faire revenir, je crois.
C'est un appui bref, ça va être en gros une petite QTE cachée par une indication visuelle qui va te permettre de customiser tes combos. Ou alors un maintien va te permettre de la contrôler explicitement avec le stick droit pour en faire des choses. Et là, en fait, tu contrôles vraiment la chaîne, tu as des pouvoirs avec ta chaîne. Ou utiliser des capacités spéciales propres à chaque légion. Sachant que ces légions, tu vas après aussi pouvoir les customiser, leur débloquer de nouvelles capacités, ce qui va en gros soit développer des pouvoirs ponctuels, soit enrichir le combo que tu peux placer avec ZR.
Ok.
Voilà.
Oui.
Pardon. Ça a l'air limité, mais le truc se débloque vraiment petit à petit. À tel point qu'au début, je me suis dit, putain, ça va être chiant, c'est mou du cul, on peut pas faire grand chose. Arrivé à la fin du premier fichier, le scénario fait que ton personnage passe en mode berserk et là tu as accès à ton premier combo complet. Visuellement, ça commence à envoyer grave du pâté. Et c'est à ce moment-là que tu comprends qu'en fait, à chaque fin de chapitre va te rajouter un petit élément de gameplay. Quand je parle de chapitres, donc vraiment le jeu est découpé en... Donc ils appellent ça des fichiers, mais en gros c'est des morceaux, ouais, des missions qui vont toutes commencer, alors pas toutes non, mais qui globalement commencent par un briefing, puis une phase d'enquête, puis une phase de baston.
Alors, est-ce que c'est une enquête ou
non,
est-ce que c'est une enquête ?
C'est une vraie enquête.
D'accord.
C'est une vraie enquête. Alors, ce qui a pu troubler des gens qui s'attendaient à un beat'em all bagarre,
Platinum, quoi,
à la Bayonetta, typiquement. Là, t'as vraiment des phases. Alors, c'est limité, c'est facile. Hein. C'est vraiment juste là pour. Enfin, moi, personnellement, ça m'a permis de pas me lasser de la partie beat'em all. Du fait que voilà, la baston est entrecoupée par ces scènes un peu plus simples qui développent un petit peu le background, les persos, et te font utiliser les légions d'une autre manière que bourriner dans le tas. Typiquement, alors la particularité des chimères et des légions, c'est que seuls les élus peuvent les voir, et pour les autres, globalement, c'est des fantômes. Ils les voient pas. Et dans les phases d'enquête, tu vas par exemple pouvoir en envoyer une devant toi pour écouter une conversation que tu n'es pas censé entendre et du coup débloquer un indice qui va te permettre de faire avancer ton enquête.
D'accord, donc c'est façon Batman Arkham, on va dire.
Voilà, ouais, Arkham Origins, c'est ça.
Ouais, voilà.
Donc tu vas avoir plus ou moins, enfin je suppose que la Légion Bête, elle va servir à creuser pour aller récupérer un truc ou alors à pister quelqu'un, ouais. Ça c'est très drôle. Tu donnes un objet à sniffer et t'as une trace à suivre.
T'as fait une trace, hein, c'est...
Ouais, c'est ça. La Légion Point, elle est, c'est la grosse balèze, donc elle va servir à déplacer des objets qui vont t'ouvrir des nouvelles zones. Voilà. Et du coup, dans ces phases d'enquête, tu récoltes tes indices. Les phases d'enquête se terminent par un PNJ qui vient te dire « Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Machin, il commence à dérouler ce que lui comprend, et son discours s'interrompt régulièrement, et là, il faut placer un peu à la Phoenix Wright le bon indice au bon endroit pour que ça avance. Sachant que si tu te plantes, ça avance quand même. Juste, tu auras une moins bonne note à la fin du chapitre, et du coup, moins de points pour débloquer plus de thunes, pour acheter du matos.
Donc l'enquête, c'est quand même... Enfin... Tu peux pas te planter, quoi.
Tu peux pas te planter. Tu peux pas te planter.
Tu dis au chef, oui, il a 2 balles dans la tête et 1 couteau dans le dos, je pense que c'est un suicide. Et donc le chef te dit, c'est peu probable.
Voilà.
Ok.
C'est dommage, ça. Enfin, le fait, c'est vraiment très assisté. C'était le problème, moi, je trouve, de Arkham Origins, où les enquêtes, même Arkham Knight, hein, où t'as un indice à trouver. L'indice, il est en rouge, parce que sinon, le monsieur, il le trouve pas, l'indice. Le monsieur ou la madame qui joue, il le trouve pas. Donc t'as l'impression d'être un peu pris pour un con, et ça avait l'air d'être un peu différent dans Astral Chain, mais...
Ouais, enfin... Quand tu te foires, au final, tu te dis « Ouais, j'ai foiré, ça avance quand même. Bon, »
Ah oui, mais tu peux... Ah oui, d'accord. Mais tu peux te tromper, c'est-à-dire tu peux ne pas voir un indice.
Tu peux ne pas voir un indice. Alors, il y a des indices qui ne servent à rien. Oui, d'accord. Dans le tas, il y a des trucs qui sont juste là pour te polluer. La plupart du temps, il y a plus d'indices que nécessaire. Et en gros, tu vas avoir une barre, est-ce que ton enquête avance quand t'es à 100%, boum, tu peux aller voir le PNJ pour lui rendre la quête, en gros. Mais si tu débloques tous les indices, sachant qu'à certains de ces indices qui vont être liés à des petites missions annexes qui, de temps en temps, vont déclencher un mini-combat, histoire que tu oublies pas que c'est un jeu de baston, si tu as tous les indices, tu auras plus de points à la fin de... à la fin du bras, faire évoluer ton personnage, et ce qui risque de te faciliter la suite.
D'accord.
Donc d'accord.
C'est quand même pas totalement inutile de faire l'enquête jusqu'au bout, quoi. T'es encouragé à faire l'enquête, mais si ça te fait chier, tu peux aussi zapper comme un connard.
Ouais,
et voilà,
c'est pas
quoi.
Inutile. Et puis même en termes de construction, c'est genre ça va te faire visiter un environnement dans son état naturel. Tu vas voir un peu comment les gens y vivent, machin, tout ça, avant que tout parte en couille et que tu revisites le même environnement, mais en état de guerre.
Ok. Et donc après, on passe à la baston. C'est-à-dire le moment où on tape sur des punks.
Oui, alors du coup, niveau mise en scène, on est dans du pur platinum. Il y a pas mal de moments où je me suis dit, Bayonetta, c'était over the top. Là, on est over the top.
Putain, on est encore plus dans la surenchère délirante de les particules, les explosions, les mecs qui volent.
C'est le best of platinum. C'est-à-dire tu as vraiment des situations incroyables, super bien donc mises en scène, cadrées, ça tout est présenté d'une manière super jouissive. Et en termes de gameplay, tu as tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Les combos qui sortent tout seuls, le système de contre qui te permet de ralentir légèrement le temps pour mieux te placer et envoyer encore plus de purée. t'as même du Wonderful 101 avec ce système de légion que tu peux contrôler explicitement pour, par exemple, aller entourer un ennemi. Et si tu l'entoures avec la chaîne, ça va le paralyser pendant un moment. Tu as le système de finish qu'ils avaient déjà placé dans...
Bayonetta 2, il y avait un système de finish.
Ouais, Bayonetta, j'avais Metal Gear en tête. Vraiment, là,
Rising Revengeance, sur le... c'est
ouais,
ça.
Si tu appuies... Une fois que t'as tombé un ennemi, t'as voilà, petite indication visuelle. Si tu appuies sur la bonne touche au bon moment, ça va déclencher une petite animation où en gros il peut se faire arracher le cœur. Tout est là. Tout est là, tout est jouissif. Ça sort super bien, même si ça peut paraître compliqué au départ du fait que les éléments de gameplay se rajoutent au fur et à mesure. Tu as largement le temps d'assimiler ce que tu sais avant d'apprendre autre chose. Voilà, ça sort tout seul, c'est vraiment vraiment cool. Je kiffe.
C'est une belle conclusion.
Donc ouais, leur conclusion.
Donc en fait, si t'as aimé les jeux Platinum type Wonderful 101, Bayonetta 2, de toute façon tu vas kiffer, en gros, c'est à peu près ce que t'es en train de dire.
Yes, faut aimer la SF cyberpunk, ambiance Ghost in the Shell, petit côté Evangelion, un peu de Blade Runner dans les décors.
Ça, les décors ont l'air cool, enfin, à chaque fois que tu regardes la ville, elle a oui, à part l'arche, elle a pas vraiment de nom en fait. C'est
ça, c'est une ville, c'est juste qu'il fallait lui filer voilà, un nom pour dire qu'elle était artificielle et puis basta quoi. Mais non, elle est très très cool. Il y a un mode photo qui est très drôle. Alors il est drôle parce qu'il y a un mode selfie en fait. Hein, avec oui, une petite quête de collectionneur classique. À la con où il va falloir prendre en photo tous les ennemis du jeu pour débloquer des trucs. Enfin, un merdier pas possible. Si vous êtes complétiste, c'est mort.
Il y a énormément de choses à collectionner.
Donc il y a des collectibles et tu as une espèce d'objectif annexe qui est systématique dans tous les chapitres du jeu, qui est en gros de nettoyer ce qu'ils appellent la matière rouge. Donc c'est des
trucs à ramasser. La reine des Ragnagnas.
C'est bien. Oh mon dieu.
Ouais, comme ça c'est fait. Twitter, si tu nous écoutes, hein, big up. Non mais c'est les femto de Demon X Machina.
Non mais voilà, c'est ça. C'est des petits trucs à ramasser un peu partout. Alors il y en a certains que tu vois, il y en a d'autres qui apparaissent que quand t'es à proximité, ce qui fait que c'est mort pour tous les avoir. Mais tu as des objectifs annexes qui vont être genre en déverminer 80% de la carte pour débloquer des points, machin. Voilà, j'avais autre chose en tête. Ça va me revenir.
En tout cas, si je peux me permettre de reprendre la parole juste quelques secondes, le temps que tu reprennes tes esprits. Le jeu est magnifique, et pour avoir écouté une petite partie de la BO pour préparer cette émission, parce que j'ai quand même recherché un petit peu des morceaux avant que Mecton dise non, tu mets celui-là, j'ai fait ok, très bien, c'est toi le chef. non, mais je discute pas, tu vois, le mec, oui, il a quasiment fini le jeu.
Donc... Il terrorise la rédaction, de toute façon.
C'est, hein. Non, mais clairement, bon, c'est,
il est pas là, on est d'accord. Enfin, ça, tu le coupes au montage. Ah,
mais oui, complètement.
Bon, voilà.
Non, mais voilà, le jeu a l'air vraiment magnifique. Alors, il tourne à 30 images par seconde, mais en fait, le côté néon.
Ça
néon noir et néon et tout ça dans la ville, c'est quand même hyper impressionnant. Après, le design, faut aimer. Hein,
voilà, si t'aimes la.
Faut aimer
comme tu dis, le cyberpunk jap, c'est
ça.
C'est juste parfait.
Je pense que Ghost in the Shell, c'est vraiment le bon parallèle. Ghost in the Shell, c'était vraiment ça, c'était du cyberpunk à la japonaise. donc, des mondes dans lesquels, effectivement, il y a des IA, il y a des implants, il y a du. Du mécano organique, je sais plus comment on appelle ça, de mec organique.
Oui, du transhumanisme.
Bref.
Oui, non, mais les légions sont comme ça. Les légions sont vraiment. Tu sais jamais trop si c'est une armure ou si ça fait partie de leur corps, les espèces de parties métalliques qu'elles ont dessus. Tiens, niveau customisation aussi, ils ont craqué. Donc, tu peux changer les couleurs de tout.
Oui, les couleurs du HUD.
Les couleurs du HUD, ils sont allés jusque-là.
Ah ouais?
Ouais.
Attends, personnalisation du HUD, elle est assez pétée. Hein.
D'accord. Parce que quand on dit personnalisation, moi c'est personnage et méca, mais ça j'ai qu'à comprendre que c'était déjà fou.
Non,
mais
peux...
aussi du jeu en lui-même.
Du HUD, donc des légions, tu peux changer leur couleur. Et de ton personnage, donc tu as des costumes à débloquer. C'est du pur cosmétique, hein, y aura rien de plus. Et dans les costumes, ils ont planqué pas mal de blagues.
D'accord. Voilà, ça fait plaisir.
Pas mal de blagues, et comme les cinématiques sont en temps réel, ça peut donner des situations très très drôles.
Bah, rien qu'au début, quand tu découvres les casiers, c'est assez rapidement d'ailleurs, parce que finalement dans l'espèce de commissariat là, tu vois assez rapidement les casiers. Tu peux déjà te mettre en porte-jartel avec juste une chemisette et une cravate. Enfin, tu peux, voilà, rien, par défaut, tu peux commencer à avoir une tenue un peu pétée par rapport à la tenue standard.
J'ai envie de spoiler un truc tellement c'est drôle, c'est pas grave, j'y vais.
Allez, c'est pas grave, on est en fin d'émission, ouais, t'as le droit de divulguer.
Bah, alerte, quitter maintenant, si vous voulez me faire spoiler. Voilà.
C'est trois fois rien. J'ai débloqué un costume qu'ils appellent, tu vois, genre masque de furtivité. Tu l'essayes et tu te retrouves avec un carton sur la gueule. Voilà.
C'est bien joué.
Alors du coup, pour revenir sur 2-3 bricoles, donc oui, la musique perso, je l'adore. Il y a pas mal de gens qui ont bloqué sur la musique du commissariat, donc c'est celle qu'on a entendue à la pause musicale juste avant. Et donc c'est la musique que tu vas entendre en boucle à chaque début de mission, au moins dans la première moitié du jeu. Donc si tu l'aimes pas, ouais, elle peut prendre la tête, quoi. Mais au pire, c'est pas grave. Tu vas dans les options et tu baisses le volume de la musique.
Et pourquoi la musique est redondante? Ou c'est celle-là qui revient
C'est celle-là qui revient en boucle quand tu es dans le commissariat. Ils ont mis cette espèce de techno-pop sympa. Voilà. Bah, si tu l'aimes pas, ouais, les débuts de mission sont chiantes, mais sinon ça passe crème. Niveau technique. Donc oui, le jeu est très beau, mais il est très beau en mode télé. Si tu joues en mode portable... il n'y a plus aucun anti-aliasing et ça picote un peu.
Ah, je savais pas ça.
Ouais. Ça fait très bizarre.
C'est-à-dire que le visuel, le visual target, hein, comme on dit dans le jargon, n'est pas du tout le même en portable et en télé.
Clairement, cet effet lissé, vraiment l'effet néon cyberpunk, marche très bien en télé, en mode portable, il fourmille grave.
Oh merde, c'est quand même con ça.
Ouais.
Enfin, c'est un peu dommage, on va dire.
Et du coup, je rebondis sur le chat où t'as Yoshirio qui dit que les jeux Platinum et lui, c'est compliqué. Et du coup, oui, sur le fait qu'on peut refaire les fichiers. De base, le jeu est en mode facile. Une fois passé l'intro, il va vous demander est-ce que tu veux rester en facile ou est-ce que tu veux passer en normal. En mode normal, chaque fin de mission va être notée. Donc c'est là où tu as l'objectif éventuellement de tout finir en rang S+, si tu es complétiste.
Platinium.
Ouais. Une fois que tu as terminé un chapitre en mode normal, tu peux le rejouer à n'importe quel moment en mode extrême. Et là, c'est vraiment, vraiment chaud. Et si jamais il n'y a que le scénario qui vous intéresse... Il y a un mode auto-combat.
Oui, donc démerdons zizi, je crois.
Non, mais tu poses la manette, le jeu joue pour toi, et t'es vraiment juste là pour regarder une série de SF Jap complètement pété.
Bah, ce qui n'est pas une mauvaise option.
Ce qui, franchement, est très cool. S'il y a des gens que ça intéresse, c'est dispo.
Bah, moi, je trouve que l'idée est intéressante. J'avais bien aimé dans Deus Ex Human Revolution, il y avait effectivement ça. Les niveaux de difficulté, c'était clairement ça, c'était give me a story. Donc je suis là juste pour suivre l'histoire, donc c'est pas la peine de me faire chier avec les combats, l'infiltration, le machin, je veux juste suivre l'histoire. Give me a challenge, qui était le mode normal, qui correspond effectivement où, bon là faut se planquer, tu peux mourir et ainsi de suite. Et give me Deus Ex, qui était l'équivalent d'un mode extrême, c'est-à-dire où là c'était vraiment, t'as genre un point de vie quoi. Et je trouve ça super cool comme idée en fait de proposer aux gens qui sont... Même pas forcément...
Ah mais tu vois, pour les gens qui seraient plus intéressés par les phases d'enquête que par les phases de baston, c'est possible.
Et même qui auraient des difficultés pour arriver à finir le jeu en facile, parce que un beat'em all, c'est pas toujours si évident que ça, c'est pas toujours à la portée de tout le monde.
Ça fait des options d'accessibilité en plus.
C'est exactement ça.
C'est toujours moins à prendre.
Et ça veut dire que tu peux faire le jeu, c'est-à-dire tu peux profiter de l'histoire sans prendre la tête si à un moment tu commences à bloquer, et moi je trouve ça cool. Et si jamais tu te dis finalement j'ai envie d'y retourner, bah, tu désactives l'autocombat et puis t'y retournes quoi. Mais j'aime bien les options de ce type là qui permettent effectivement de te dire j'aime bien le jeu mais le gameplay pas forcément, donc je veux le finir mais j'y retournerai pas.
Non mais voilà, c'est dispo, voilà. Tu le prends pas mais c'est là.
et c'est cool. Un dernier truc à ajouter, Mecton, avant qu'on termine l'émission.
Jouez-y, c'est vraiment cool. C'est voilà. Vraiment, vraiment cool.
Et du coup, est-ce que c'est un jeu de droite?
Oh, faites chier, putain.
Est-ce qu'on t'a niqué ou pas? T'as cru que j'allais pas la faire?
Ouais. T'as vraiment coupé là?
Non, j'ai pas coupé.
Ah, okay.
Alors là, mais j'attends le jeu de droite. Hein, je...
Non, ouais, ouais.
Alors en fait, dans le podcast, peut-être que je couperai, hein, comme ça.
Et si tu veux, on joue un flic. Ouais, il y en a qui m'auront pas.
Mais, non, mais en vrai, c'est quoi? Alors, attendez, on pourrait.
Le papier de William Audureau.
Un petit peu, s'il vous plaît. Oui, oui, bah, tout à fait.
C'est rapport à la critique de William Audureau sur Pixels, donc rubrique jeux vidéo du monde, qui pour moi est parti dans un délire à chercher un message ou des symboles dans le jeu.
Mais c'est quoi ses arguments?
Il faudrait que je le relise. Je dis ça, ça m'est passé au-dessus parce que pour moi je voyais. Enfin, il a justifié le fait après que le jeu lui est passé au-dessus et il devait quand même écrire son papier, donc il a trouvé un axe d'écriture, ok, très bien, pas de soucis. Il a trouvé un axe d'écriture, j'ai pas trouvé un axe de lecture, je l'ai survolé le papier, mais ça m'a fait rire qu'on puisse pousser l'analyse d'un scénar aussi pété à ce point. Pour moi c'est juste là pour se marrer, passer un bon moment devant des situations craquées, quoi. Faut pas chercher plus loin à...
Est-ce que ça rejoint le papier d'Overgame sur Resident Evil 5? Alors ça date un peu, hein, mais...
Ok, parce que les méchants sont black, c'est ça?
Parce que, ouais, tous les méchants étaient black, enfin tu vois le...
Sur qui? Sur quoi?
Alors Overgame, qui n'existe plus, avait fait un papier sur Resident Evil 5 qui était titré, je crois que c'était dégueulasse le titre, ou quelque chose comme ça.
Ah, carrément.
Qui disait... Ah oui, non mais les mecs avaient été très loin dans le délire. Je comprends aussi, il y a effectivement un contexte qui fait que, mais enfin c'était un angle d'écriture dans lequel tu retrouvais un angle, enfin l'angle de lecture était compliqué, quoi. Et où les mecs disaient en gros c'est dégueulasse parce que finalement t'es dans un Resident Evil, les personnages que tu joues sont blancs et tu passes ton temps à buter des noirs et il y a peut-être quelque chose qui va pas, alors qu'en fait les créateurs du jeu, ça a fait une vraie polémique, hein.
Ouais, je pense qu'ils l'ont.
Mais pas que le truc d'Overgame.
Ils n'ont jamais posé la question, voilà. Quoi.
Mais apparemment, les mecs, c'était vraiment pas du tout posé la question. Ils ont fait ça, genre, ça se passe en Afrique.
Oui, bien sûr.
C'est machin. Oui,
s'il y a un contexte de jeu, voilà. Mais il y a des choses qui restent inconscientes. Je veux dire, il y a des représentations qui restent. C'est pour ça que le fait qu'il ne l'ait pas fait intentionnellement, c'est pas forcément un argument.
Complètement d'accord avec toi.
Quand on regarde les stats, par exemple, je prends le cinéma, parce que c'est pour le coup ce que je connais le plus, dans le cinéma, quand la répartition de la parole entre les hommes et les femmes, c'est 80-20, c'est pas conscient, c'est pas les scénaristes, les scénaristes,
mais c'est pas les mecs qui
disent
le font exprès
on va les invisibiliser, mais ça reste inconscient et ça reste un problème. Donc ça peut être, et même c'est pour Astral Chain, j'ai pas les arguments. Mais peut-être, effectivement, si tu dis qu'il a cherché des symboles qui n'existent pas...
Voilà, pour moi, ça allait un peu trop loin dans la recherche de la petite bébête. Après, il faudrait peut-être le relire pour voir, mais...
Mais quelqu'un lui a posé la question, en dehors de ça, je veux dire, on connaît un petit peu M. Audureau...
Alors, il me semble, justement, je crois que c'est Drogard
Twitter,
qui
il
disait
a dit,
que Merlan Free avait fait une critique de la critique. Antix l'a lu. J'ai pas pu échanger avec lui sur le sujet. J'en sais pas plus.
Ouais, parce que c'est ça aussi
moi,
qui est intéressant.
Je suis resté premier degré. Hein. Ça pète de partout. Il y a des grosses bêtes qui défoncent des immeubles. Porn destruction, vas-y, envoie quoi.
Non, mais c'est ça. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, faut le voir comme ça. Après, est-ce qu'il y a un second niveau de lecture inconscient, collectif, un message sociologique derrière? Peut-être. Hein.
Ouais, je sais pas.
Il y a peut-être une morale.
Avec Chériot, bagarre.
Bagarre.
Et puis ça a pas valeur de dogme. Hein. Je pense qu'il écrit William Audureau, c'est aussi pour inviter à
ah non mais a priori la critique de sa critique, ça, il l'a très bien pris justement.
Ah oui, ça c'est. Enfin... Voilà.
Bah après William Audureau est quand même quelqu'un qui a tendance à effectivement prendre plutôt bien la critique et essayer d'être très mesuré dans ce qu'il dit en général.
Yes.
C'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Hein. Mm-hmm. Pixel, on le lit régulièrement et c'est vrai que
c'est du bon.
Généralement très très bien. Généralement très très bien. Les journalistes jeux vidéo de qualité, il y en a quand même pas beaucoup, donc quand il y en a, il faut le dire.
Ouh, si vous avez l'occasion de toper la collector, l'artbook, il défonce. Il est blindé d'anecdotes des
le
mecs
tunnel.
de la DA
tunnel.
Et de...
Ouais, les artbooks en général, bon voilà.
Déboîtage sur le dojo. Hein.
Yes.
Donc profitez-en pour aller jeter un petit coup d'œil à ça. J'en profite, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre qui nous a écrit. Je passe un tout petit message, hein, c'est la fin de l'émission, hein, rassurez-vous, ça va bien se passer. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre qui nous a écrit sur le dojo pour nous dire que il y avait des erreurs d'impression dans l'artbook de Link's Awakening. Oh. Mecton, est-ce que tu peux confirmer ?
Faudrait que je vérifie.
J'ai envoyé à tout le monde le truc, mais le mec avait signalé à telle page il y a un problème, et on le voit dans la vidéo apparemment que tu as faite. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de gueuler. Voilà, donc je remercie Pierre qui n'a pas. Oui, c'est le courrier des lecteurs, hein, je suis désolé, c'est le courrier du cœur, on a aussi, mais. Donc je remercie beaucoup Pierre. Alors tu t'as pas laissé ta vraie adresse mail, donc j'ai pas pu te répondre. Donc voilà, donc t'inquiète pas, nous bon, enquêtons.
On répondra par tweet peut-être.
Nous enquêtons, voilà, si tu suis le Twitter du dojo directement ou indirectement via le site et tout ça, tu verras la réponse. En tout cas, quoi qu'il arrive, on te remercie pour la remarque, on l'avait pas vu. En tout cas, moi j'avais pas vu. Mecton apparemment l'avait pas vu non plus.
Non, enfin,
personne l'avait vu, donc bravo, œil de lynx. Tu gagnes rien, mais si t'as envie de renvoyer un message sur le formulaire de contact avec ta vraie adresse mail, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on t'enverra un petit cadeau.
Il voilà. Gagne notre reconnaissance.
Au moins notre reconnaissance.
Voilà.
Au moins notre reconnaissance. Une photo de Mecton à poil, très bonne idée. Ou une photo de Passonic, effectivement. Ça, voilà, ça pourra le faire. Bref, on va se quitter là parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps. Mais en fait, pas tant que ça, c'est juste que c'était compliqué. Bref.
Oui, il y a une distorsion temporelle.
Il y a une sorte de. Voilà, il y a eu un sort
beaucoup
de...
trop compliqué pour être explicité en 30 secondes.
Oui. On pourra clairement
c'est de la physique quantique, enfin on pourrait se lancer dans des exposés.
C'est de la physique quantique de droite en plus, donc on est quand même dans la merde. J'aimerais un jour qu'on invente la philosophie de droite pour voir si ça peut exister. Bref, voilà.
Il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes. On vous dit à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous parlerons de Link's Awakening DXDX et de Link's Awakening tout court. Donc ce sera une émission qui sera pas intégralement consacrée à Link's Awakening, mais presque. Sirard, je sais pas si tu nous écoutes en podcast, je sais que tu nous écoutes en podcast, ce serait bien que tu sois là parce que tu fais partie des spécialistes de Link's Awakening. Il y en a d'autres, hein, je sais qu'Antix aime énormément ce jeu et je suis certain qu'il va en parler avec beaucoup de ferveur. Bref, nous on se retrouve dans 2 semaines en direct, la semaine prochaine en podcast, ce même podcast, et j'essaierai de pas être à la bourre cette fois-ci. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine fois.
Ciao, bisous tout le monde.